Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Jean-Luc Chrétien, vous êtes professeur à l'Université de Paris 4 et poursuivez depuis 20 ans, depuis 1985, et L'Heure du Secret, votre premier livre, une œuvre singulière et magnifique à la fois, par ce souci qui est le vôtre d'explorer les résonances de la parole en nous. La parole qui nous interpelle et qui se déploie, la beauté qui surgit dans des rencontres intimes quand nous sommes confrontés à son effroi, selon le titre de votre second livre, L'effroi du beau, 1987, au Cerf, qui vient de reparaître. La beauté nous blesse, cette blessure nous ouvre à nous-mêmes et à ce qui, en nous, excède. Vous mettez au cœur de votre travail cet, je vous cite, « excès de l'homme sur lui-même, l'excès de ce qu'il est et de ce qu'il peut, sur ce qu'il pense et comprend ». Deux questions semblent organiser votre œuvre. Celle de la parole et celle du corps. La parole, nous sommes, dites-vous, des êtres de parole. Toute parole est promesse de sens. La parole se déploie de différentes manières. L'écoute, la lecture, la rumination, la confession, le fait de se taire, la traduction. Toute catégorie que vous méditez dans votre magnifique livre « Saint-Augustin et les actes de parole » au PUF en 2002. Second axe, le corps, non pas un corps inexpressif, mais au contraire, un corps parlant. Et dans votre livre « Symbolique du corps », PUF 2005, qui est une lecture de la tradition chrétienne du Cantique des Cantiques, vous dites « Le corps humain, charnel, spirituel ou collectif, vit de la parole, par la parole, pour la parole ». Là, dans ce livre, vous méditez sur toutes les parties du corps, les dents, le nez, les joues, la chevelure, les seins, le ventre, le nombril, et vous aboutissez à une théologie du corps. Alors, comment présenter votre œuvre et tous ces livres que vous avez faits depuis plus de 20 ans? Distinguons, me semble-t-il, différentes inspirations. D'abord, l'inspiration poétique, avec des recueils de poèmes, car vous êtes par ailleurs, ou en plus, ou d'une autre manière, poète. Notons en 1989 « Traversée de l'imminence » et en 1990 « Loin des premiers fleuves ». L'inspiration biblique, avec, comme nous l'avons indiqué, la symbolique du corps en 2005, un texte sur Marthe et Marie en 2002 intitulé « La double hospitalité » chez Dietrich Brouwer, un texte très beau sur la prière intitulé « La parole blessée » dans « Phénoménologie et théologie » en 1992, avec d'autres textes de Michel Henry, de Paul Ricoeur et de Jean-Luc Marion. Et « L'intelligence du feu », Bayard 2003, lecture des lectures faites de cette parole de Jésus, « C'est le feu que je suis venu jeter sur la terre ». Et puis une troisième inspiration, une anthropologie de la parole et du corps, avec « L'inoubliable et l'inespéré », 1991 chez Dietrich Brouwer, autour de l'oubli de soi, et le travail de remémoration, La voix nue, 1990, édition de Minuit, autour de la voix humaine et de la promesse, avec une critique de la transparence. Et n'oublions pas Le regard de l'amour, 2000, toujours chez Dietrich Brouwer, réflexion sur ce regard qui nous conduit de l'amour à la vision de Dieu, et un livre qui est votre avant-dernier, La joie spacieuse, édition de Minuit, 2007, livre donc sur la joie qui nous ouvre vers l'avenir et nous dilate quand le corps s'élargit. Jean-Luc Chrétien, vous êtes un auteur secret et, selon moi, l'un de nos plus grands philosophes français actuels. Et j'ajoute, à titre personnel, que je suis très honoré de cette rencontre. Votre livre, ou vos différents livres, m'accompagnent depuis bien des années et ouvrent toujours des perspectives insoupçonnées et me renforcent dans l'idée d'un salutaire corps à corps avec les textes et la parole qui est plus intime que mon intimité. Alors, nous allons essayer de, à la fois de mieux connaître votre travail et de suivre ce dernier livre, enfin le dernier livre que vous venez de faire paraître en 2007, qui s'appelle « Répondre, figure de la réponse et de la responsabilité au PUF », qui est une série de conférences faites à l'Institut catholique de Paris et qui reprend, d'une certaine façon, les différents thèmes ou différents thèmes que vous avez abordés dans votre œuvre. Et ce livre, donc, servira de point d'appui ou de point d'appel à notre discussion de ce jour. D'abord, excusez-moi d'avoir été un peu long pour vous présenter. Est-ce que vous considérez que cette présentation est, si ce n'est exhaustive, du moins pertinente? Et comment est-ce que vous pourriez, d'une autre manière, définir votre travail et votre œuvre?
Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation ici. Je vous laisse l'entière responsabilité des jugements que vous avez prononcés. Je reprendrai un mot tout de même. Vous dites que je suis un auteur secret. Alors, mon premier livre s'appelait « Lueur du secret », mais le terme de secret a bien des significations. En tout cas, je ne suis pas du tout un auteur ésotérique, loin de là. Le seul secret qui m'intéresse sont les secrets qu'on crie sur les toits, comme dit l'Évangile, ce qu'on a entendu au creux de l'oreille, on le crie sur les toits. Ou alors le secret en pleine lumière qu'évoque Goethe et bien d'autres après lui, qui est le secret de la nature, n'est-ce pas? D'ailleurs, il serait paradoxal, après que vous ayez énuméré mes différentes publications, de penser que je sois un homme qui se cache en quelque sorte, puisque ça a été publié. Par ailleurs, nous avons parlé des questions principales des travaux que j'ai faits. Alors, si je suis la personne, je pense, la moins mal placée pour parler de mon projet, en revanche, je ne suis pas sûr du tout d'être la personne la mieux placée pour parler de mes livres déjà écrits, déjà publiés. Car j'écris, mais je ne me lis pas. Pour la publication, c'est aussi une sorte d'arrachement et d'adieu. On écrit pour donner forme à ses pensées, pour les fixer. Mais une fois qu'on leur a donné forme et qu'on les a fixées, alors il y a cette bénédiction de la publication, c'est-à-dire qu'on écrit aussi pour se défaire de ses pensées, pour faire le vide en quelque sorte dans son esprit, pour avoir ruminé longtemps ce qui nous fit écrire, alors passer à un autre pâturage, si j'ose dire, à une autre nourriture. Et donc, je ne peux pas être un commentateur en quelque sorte de mon œuvre. Quand un livre est fini, c'est pas que je pense au suivant, c'est que lui-même, comme dans une course de relais des questions, me tend la question suivante. Quand j'ai commencé à écrire, je cherchais les sujets que j'allais aborder. Maintenant, je suis plutôt comme une sorte d'animal de trait qui est conduit par les questions des livres précédents.
Alors, sur les différentes distinctions bibliques, poétique, cette anthropologie du corps et de la parole, est-ce que ça vous semble correspondre effectivement à, disons, quelque chose dans l'ensemble de votre œuvre? Ou pour le dire autrement, cette inspiration à la fois poétique, théologique, philosophique, est-ce qu'à votre avis, c'est des distinctions qui tiennent? Ou est-ce que vous vous situez à un autre niveau de compréhension où tous ces éléments-là sont mêlés pour mieux connaître ce secret dont je parlais, qui est celui de l'intimité, qui est celui du corps, qui est celui de la rencontre spirituelle, qui est un peu, disons, les éléments qui traversent votre œuvre.
C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des distinctions méthodiques tout à fait strictes à faire, que je ne crois pas méconnaître, entre ce qui relève de la philosophie ou du philosophique comme tel, et ce qui relève du théologique, en tout cas de ce qui concerne la théologie révélée. Je ne crois pas les avoir jamais brouillées, mais on peut être à la fois philosophe et théologien selon ces œuvres. Et en revanche, à partir du moment où on pose la question de la parole, on ne peut pas poser la question de la parole dans une ignorance ou une abstraction de la diversité principale de ces modes, diversité qui n'est pas une diversité entre des disciplines. Alors, voyez, par exemple, on ne peut pas séparer, comme si c'était deux domaines incommunicables, ce qui est biblique et ce qui est poétique, puisque la Bible, par les psaumes, par le cantique des cantiques, comporte du poétique. Parler de la parole, sans entrer dans une explication avec, au sens du terme allemand, aus einander setzung, une sorte de corps à corps, précisément, en étreignant ce qui est en jeu, ce serait se condamner à des généralités au fond sans intérêt. Et donc, la question de la parole me conduit aussi à ces différents domaines. Alors, je voudrais dire aussi une chose. Je parle de la polyphonie, dans un sens sur lequel on reviendra peut-être, d'une façon moi-même polyphonique. Et Jacob Burckhardt, l'ami de Nietzsche, grand auteur de la civilisation de la Renaissance en Italie, qui est le plus connu en France, dans ses considérations sur l'histoire universelle, très très beau, il disait « Il se pourrait que la culture mourût de se faire à elle-même un croque-en-jambe, se fit elle-même tomber, se fit elle-même déchoir. » Et qu'est-ce que c'était que ce croque-en-jambe pour Burckhardt? Il n'en voyait que le début, du reste, à la fin du XIXe siècle. C'était l'excessive spécialisation. Et même si, du point de vue, si vous voulez, universitaire, évidemment, il est beaucoup plus facile de suivre un chemin qui, en devenant le spécialiste de ceci ou de cela, de tel auteur ou de telle période, c'est une chose à laquelle je me suis moi-même toujours refusé, le voyant comme précisément un danger mortel. Et parler de la polyphonie, c'est aussi faire se relancer les questions et les réponses d'une époque à l'autre, d'un domaine à l'autre. Et là, il faut être mobile, n'est-ce pas? Il faut circuler. Et ça me paraît un besoin absolument vital. Quand j'étais jeune, il y avait des spécialistes, disons, de philosophie antique ou de philosophie moderne. Maintenant, on est spécialiste en histoire de la philosophie d'un auteur, voire d'un aspect d'un auteur, quitte à ne plus s'intéresser du tout à ce qui serait autre que cela, ce qui produit des effets au milieu d'une érudition que j'appelle hydropique, vous voyez, enfin, démesurée, presque folle parfois, des effets d'absurdité au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on devient sourd à ce qui n'est pas sa spécialité. C'est un grand danger spirituel de l'université en philosophie, et pas seulement en philosophie. En philosophie, c'est encore plus grave. Vous voyez.
Pour essayer de compléter cette présentation de vous et de votre œuvre avant que d'aborder ce dernier livre, vous faites partie, me semble-t-il, de ceux pour lesquels le moi est haïssable. D'où aussi cette résonance avec le secret dont je parlais, qui n'est pas du tout, effectivement, comme vous dites, ésotérique, mais qui est ce goût qui est le vôtre de ces rencontres secrètes. Il n'y a rien, dites-vous, d'autobiographique dans ce que j'écris, et ceci dans un entretien que vous avez accordé à la revue Nunc, qui, dans son numéro 8 de septembre 2005, a fait un beau dossier sur vous. Les seules traces revendiquées et dignes de mémoire sont, pensez-vous, vos livres. Et comme Faulkner, que vous citez, vous voudrez sans doute n'avoir comme biographie que celle-ci. Il écrivit ses livres et il mourut. Alors, première question, revenons sur cela, enfin, sur cette question biographique. Il n'y a rien d'autobiographique dans ce que j'écris. Est-ce si sûr? Comment imaginer un travail sur la parole et sur la résonance qu'elle a en nous sans vous imaginer personnellement impliqué, biographiquement, spirituellement? Si les détails d'une vie sont pour partie sans importance pour votre œuvre, elle n'a rien d'impersonnel et vient de ce dialogue que nous sommes, selon Hölderlin, de cet effort de traduction intime de soi à soi-même, de cette transaction secrète dont parle Virginia Woolf. Alors, pour le dire autrement, quel est ce moi ou ce je qui est partout présent dans votre œuvre et qui, bien évidemment, n'a rien à voir avec la biographie au sens factuel du terme?
Oui, alors évidemment, il faut distinguer le fait de ne pas écrire d'une façon expressive, autobiographique, narrative de soi. Même les historiens, maintenant, font de l'ego histoire, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire, pour autant, ne pas parler de soi ne signifie pas qu'on ne parle pas en tant que soi. Et le fait que ça ne soit pas narratif, autobiographique, ne signifie pas qu'on cherche à écrire d'une façon impersonnelle. En ce sens-là, je n'ai pas de rêve d'effacement total. C'est le refus du narratif, de l'autobiographie, et disons de la complaisance dans l'expression, n'est-ce pas? L'expression, c'est il faut l'apprendre au sens étymologique, n'est-ce pas? À force d'exprimer, il n'y a plus rien comme un citron pressé, n'est-ce pas? Vous n'avez plus qu'une pulpe qui n'aurait plus rien de pulpeux. Donc, ça ne veut pas dire un goût, disons, valérien, par exemple, d'impersonnalité radicale, d'effacement de soi. Mais là, il est très beau que Kant, au cas où je ne me saurais me comparer, mais Kant, en épigraphe de la critique de la raison pure, a mis cette phrase de Francis Bacon, « De nobis ipsis silemus », sur nous-mêmes, taisons-nous, faisons silence. Et c'est la perfection de ce silence, puisque ce n'est pas Kant qui le dit en son propre nom, c'est une citation. Vous voyez, c'est parfait. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la biographie de Kant ne nous intéresse pas, mais ça ne veut pas dire que son œuvre ne soit puissamment et de toutes parts personnelle. Et vous voyez, nous sommes passés, quand j'étais étudiant, c'était la vogue très puissante, très écrasante aussi, du structuralisme en particulier linguistique, qui justement écrasait en quelque sorte, traitait comme un caput mortuum, à part quelques exceptions, la parole comme telle, n'est-ce pas ? La langue nous régissait de part en part. Et par un renversement peu glorieux, au demeurant, on est passé au règne de l'expression subjective généralisée, n'est-ce pas, où on se raconte, où il n'y aurait que ça d'intéressant. Là, je reste fidèle à Proust, absolument, complètement, contre Sainte-Beuve.
Mmh. Alors, je voudrais essayer de passer un peu en revue quelques thèmes de votre œuvre. Et première question, pourquoi toujours penser l'homme à partir de la parole ? Ne peut-on pas considérer que ce rapport, cette intimité de l'homme avec la parole est d'une certaine façon un peu anachronique à l'heure des médias, de l'image, du bruit ambiant, de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, nous fait fuir ce silence que vous considérez comme absolument essentiel pour être dans ce face-à-face, dans cette intimité avec la parole. Donc pourquoi penser l'homme principalement comme un être de parole ?
Alors là, écoutez, c'est le double héritage dont nous pouvons bien ou mal répondre, mais qui ne peut pas ne pas être le nôtre, d'Athènes et de Jérusalem, n'est-ce pas, qui fait de l'homme celui qui en partage le logos. C'est la fameuse définition aristotélicienne. Alors, c'est un peu forcé, d'une certaine manière, de dire que ça serait celui qui en partage la parole. Mais c'est en tout cas dans cette direction qu'on peut méditer. Pour la Bible, l'homme est celui qui, précisément, est appelé, et appelé par une parole divine. Il pourra aller, comme Jonas, jusqu'à se réfugier dans le ventre d'une baleine. Il n'échappera pas à la parole qu'il a entendue. Et ça se rejoint dans cette page si admirable de Saint Grégoire de Nice, dans son traité sur la création de l'homme, page qui d'ailleurs était très admirée par le paléontologiste le roi Gourand, qui la cite dans un de ses beaux ouvrages sur l'outil, la technique, le geste, le corps, où Grégoire de Nice dépeint le corps humain tout entier comme la main, la face, corps tout entier, comme étant en quelque sorte celui d'un porte-parole, le corps de l'homme qui doit parler. Et évidemment, la parole est un thème où ces deux traditions, Athènes et Jérusalem, et toute leur hybride postérité, selon le mot fameux de Joyce, dont Derrida faisait tant de cas, Jew grec, Greek Jew, enfin chrétien, c'est les deux à la fois. Donc le thème du corps est évidemment inclus dans celui de la parole, on tient les deux.
Et en contrepoint, d'une certaine façon, de cet aspect central de l'homme comme être de parole, il y a une critique de l'époque et de l'omniprésence de la télécommunication. Dans un de vos livres, vous dites, en critiquant cette omniprésence, « Dès lors, dites-vous, tous sont là et il n'y a personne. Tous parlent et rien n'est dit. Le réel devient virtuel et le virtuel réel dans un jeu d'ombre exempt comme aux enfers des anciens. Là où tout est contraint de s'étaler, plus rien n'est découvert. » Alors, de cette façon, vivons-nous aujourd'hui en enfer, l'enfer des anciens tel que vous le décrivez, avec des ombres plus que des réelles présences, pour reprendre ce beau titre de Steiner.
Les enfers au sens des anciens, ce n'est pas tout à fait l'enfer au sens de la théologie, ce n'est pas la même chose. Mais si vous voulez, ce que je critique, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce qu'on est de plus important à dire soit de se dresser d'une façon vindicative, omineuse ou faussement prophétique contre son époque, quand bien même on penserait que toutes sortes de catastrophes nous menacent, ce qui est le cas, ce n'est pas le fait de ne parler que des catastrophes qui pourrait nous en sortir. Il y a une certaine indignation devant ce qu'on considère comme barbarie, qui est une indignation, à mes yeux, en elle-même barbare, vous voyez, qui participe. Comme Nietzsche disait que le critique de la décadence est lui-même un décadent, alors j'aime mieux penser cette chose très simple d'un moine de je ne sais plus quelle époque, au milieu des invasions dites barbares, qui par la fenêtre de son monastère voyait l'autre rive à feu et à sang, et qui continuait de lire et de méditer, car c'est lui à ce moment-là qui représente l'avenir, ce que une fois que tout aura brûlé, qu'est-ce qu'on aura à transmettre, ben, ce qu'on est en train de faire là, plutôt que de pousser des cris par la fenêtre en disant « la barbarie arrive ». Vous voyez. Donc ce que je critique, ce n'est pas particulièrement notre époque, c'est qu'évidemment pour moi, c'est un héritage de toute philosophie digne de ce nom. Vous ne pouvez pas séparer ce à quoi vous arrivez ou ce à quoi vous arriverez, en n'importe quel domaine, quel qu'il soit, intellectuel, personnel, spirituel, du chemin qui y aura conduit. La Sainte Bible dit une bénédiction sur les pieds des messagers de bonnes nouvelles, des porteurs de bonnes nouvelles. Mais justement, sur ces pieds, ben, on voit qu'ils sont peut-être blessés, sales, pleins de poussière, de boue, d'éraflures, etc., et de fatigue, n'est-ce pas? Et c'est vrai en tout domaine. Donc, ce que je critique dans le passage que vous évoquez, c'est, disons, la télécommunication, le rêve de télépathie, le rêve de transparence. À cet égard, j'ai une certaine persévérance, puisque la première chose que j'ai publiée, un article en 79, ce qui ne me rajeunit pas, était un article sur le langage des anges dans la scolastique, article repris dans mon livre La Voix Nue, c'était risqué, n'est-ce pas? Je pouvais pas être un farfelu pour le restant de mes jours. Mais qui a beaucoup intéressé des gens parce que c'était justement un modèle parfait de communication immédiate et transparence. Je pense qu'il n'y a pas de pire péril en tout domaine que l'immédiateté. Vous voyez? Et là, j'ai été très frappé en lisant, il y a peu de temps, certains ouvrages de Jean Baudrillard, dont on pourrait imaginer, vous voyez, que spontanément, ça ne serait pas une de mes lectures favorites, ni quelqu'un à qui j'avais de l'affinité. J'étais très surpris de voir que, selon les chemins qui sont les siens, il y avait dans sa critique de la transparence et de la télépathie, entre guillemets, de la télécommunication, de l'immédiat, quelque chose où, quel que soit son chemin, son langage et ses buts, je trouvais qu'il y avait une grande pertinence descriptive et phénologique. C'est pas non plus la psychiatrie qui me contredira, n'est-ce pas? Le face-à-face, sans mots, les yeux dans les yeux, c'est le plus sûr et plus court chemin pour la violence et la folie. Vous voyez? Alors, ça existait à toute époque. Disons que des moyens techniques modernes donnent à ça, dans notre vie, une emprise qui est évidemment plus grande que jamais, fait de ça aussi des modèles dominants de communication. Vous voyez, dans le système épistolaire latin, il y avait cette particularité linguistique que celui qui envoyait une lettre l'écrivait en se plaçant du point de vue du temps de la réception. Donc, au lieu d'écrire « je vais bien », aujourd'hui, le jour où j'écris, il écrivait en latin « j'allais bien », car quand le destinataire de la lettre lira, c'est présent où le scripteur écrivait sera devenu du passé. C'est une belle hospitalité de parole, n'est-ce pas? On prend le point de vue temporel de l'autre. Et ça, c'est au fond l'essence de la lettre, de la médiation temporelle. Et vous voyez que, en ce sens-là, Baudrillard a raison de dire que ce qu'on appelle le temps réel, c'est-à-dire le fait que ça soit en direct, j'apprécie de dire que cette émission ne soit pas en direct, c'est le contraire du réel. Le réel n'est que dans la médiation. Alors, j'emploie ce concept traditionnel et hegelien en particulier de médiation. On peut évidemment employer d'autres termes, mais c'est fondamental.
Nous allons faire une petite page musicale pour laisser respirer, comme on dit, nos auditeurs, et reprendrons juste après. Nous reprenons donc notre conversation avec Jean-Louis Chrétien. Et nous avons bien compris, dans ce que nous avons vu préalablement, que vous n'êtes pas un moine qui, quand le feu est là, est à la fenêtre en train de crier, considérant la barbarie qui est là, mais plutôt un moine qui reste à l'intérieur du monastère ou à l'intérieur de sa chambre pour effectivement continuer sa méditation, considérant que sa méditation est peut-être la seule chose qui restera. Et nous avons compris aussi que vous étiez contre cette immédiateté, enfin ce faux réel de la proximité qui met à mal toute forme de médiation.
Un petit correctif, si vous en permettez. Je ne suis pas moine, hélas. Je ne suis pas de ceux, j'ai bien compris, mais je ne suis pas de ceux qui penseraient que seule ma méditation restera. C'est que seule cette tâche de méditation et transmission. On ne sait pas quelles sont les œuvres qui resteront.
C'est dans ce sens-là que je l'avais dit, mais vous avez raison de le préciser. Je voulais juste essayer de voir avec vous pourquoi lire des livres. C'est une chose qui est quand même de plus en plus rare, même si c'est une occupation quotidienne chez vous et chez beaucoup d'autres. Et surtout, comment lire des livres? Je ne vais pas employer magnifique un tour de bras, mais il y a quelque chose chez vous, dans la lecture que vous faites, qui est particulièrement singulier. Hein. Vous savez entrer dans le corps des textes, vous savez suivre un indice de texte en texte, détecter une empreinte, flairer un sens, suivre des pistes d'un sens d'un livre à l'autre, d'une pensée à une autre. Donc, pourquoi et comment, pour tous ceux qui nous écouteraient et qui ne lisent pas ou pas suffisamment, pourquoi et comment entrer dans ce colloque singulier qu'est la lecture, et pourquoi est-il nécessaire, selon vous, d'être dans cette médiation qu'offrent les livres?
Alors, l'art de lire, ou les arts de lire, car il n'y en a évidemment pas seulement un seul, l'art de lire ou les arts de lire sont une des formes les plus hautes, si ce n'est la plus haute, de l'art de vivre en tant qu'être humain et en tant qu'être de parole. Descartes, dans une phrase très célèbre, considérait la lecture comme une conversation avec les meilleurs esprits du passé. Mais justement, cette conversation, elle est une conversation qui n'est pas régie par le temps de l'urgence, qui n'est pas régie non plus par le temps de la réplique. Comme là, si vous me posez une question, il faut bien que je réponde, ou que je me dérobe à répondre, ce qui est encore répondre. Et donc, la lecture est une façon, d'une part, d'élargir considérablement mes perspectives, mes possibilités de vie. Je circule dans des pensées, dans des époques, dans des pays, dans des langues qui ne sont pas miennes, dont c'est une expérience de la distance, de l'étrangeté, de l'altérité, en tous les sens, d'une part. Et c'est une expérience qui est proprement une expérience méditative, lente. Toute bonne lecture est lente, ou relecture, parce que précisément, ça prendra le temps que ça veut. Et si je ne comprends pas ce livre, je le reprendrai plus tard. Et si je ne sais pas ce que j'en pense, si je suis d'accord ou non, maintenant, je n'ai pas à répliquer tout de suite, n'est-ce pas, à donner mon avis. Je peux prendre tout le temps que je veux. Et échapper au temps de l'urgence de l'action, auquel temps existe et doit exister, c'est précisément notre plus haute ressource, et notre plus haute ressource aussi pour l'action elle-même. Et à moins qu'on ait la chance tout de même rare de ne fréquenter que des génies, on retombe sur l'argument cartésien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ontologique dans la lecture. Je peux rencontrer par la lecture des pensées, des paroles, des chemins d'existence que jamais je ne rencontrerai dans ma vie. Donc c'est non seulement un élargissement, mais une élévation. Et je parle d'art de lire. Alors, évidemment, on oppose les livres et la vie. Mais lire en vérité, c'est en quelque sorte comparaître, moi, devant la dimension d'être qu'évoque le livre. Lire un poème d'amour, c'est être devant l'amour. Lire une prière, même si je ne suis pas croyant, c'est être devant cette possibilité religieuse de l'être devant Dieu. Lire une page d'un philosophe, c'est être devant telle question difficile, ardue, de la pensée. Et c'est précisément parce que celui qui écrivait s'est tenu devant ces dimensions d'existence, aussi variées qu'on voudra, que je suis invité à l'accompagner et que, d'une certaine manière, ayant articulé sa présence, ayant médité ses actes, évidemment, il me sert de guide, de moniteur, aurait dit Saint-Augustin, pour élargir mes possibilités. Et j'ai écrit une étude qui reparaîtra bientôt, qui est à propos de la lecture de la Bible, que j'avais intitulée « Se laisser lire avec autorité par les Saintes Écritures ». C'est vrai au plus haut point d'une parole révélée, mais c'est vrai de toute grande parole. Le lecteur est lui-même lu. Le lecteur est lui-même déchiffré. Être lecteur, en vérité, ce n'est pas être à part derrière une vitre, sur son compte à soi. C'est, comme je disais, comparaître dans la lumière du phénomène lui-même dont il est question, par rapport auquel l'auteur sert de médiateur. Alors, cette comparution, selon le cas, peut me plaire ou pas du tout, peut me mettre dans la plus grande joie ou me mettre dans la terreur ou le dégoût, mais je comparais. Donc, c'est bien un acte de ma vie, n'est-ce pas? C'est pas une fuite de la vie, comme d'une façon barbare, par exemple, on oppose être dans les livres et être dans la vie. Bon. Et le lecteur a lui-même lu. C'est pourquoi la manière dont vous connaissez, tout le monde connaît ce proverbe « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Dis-moi, alors, je ne dirai pas seulement « Dis-moi ce que tu lis ». Parce qu'on peut lire très mal, sans rien comprendre. Il se peut aussi qu'on lise des mauvais livres, mais qu'on les lise bien. Vous voyez? Mais je dirais, dis-moi comment tu lis, et je te dirai qui tu es. Mmh. Et les changements spirituels dans notre vie, la maturation, l'approfondissement, au contraire, s'accompagnent toujours de changements de ma façon de lire. Car lire n'est après tout que se tenir dans la lumière de telle ou telle dimension d'existence, et une lumière rendue plus exigeante, plus vive, plus aiguë, par le fait que précisément je ne m'y tiens pas tout seul, je m'y tiens avec un autre qui m'y a précédé.
Qui me tient la main, d'une certaine façon.
En tout cas, qui me guide, oui.
Je voudrais que nous reprenions maintenant, après cet éloge de la lecture, et je dis éloge d'autant plus nécessaire que la lecture se perd, hein, et que le temps de la lecture est un temps. Donc ce temps de la lecture qui nous requiert plus que nous sommes susceptibles de lui donner un temps limité, ce temps-là est de plus en plus difficile à trouver dans l'époque qui est la nôtre. Je voudrais donc reprendre différents thèmes que vous avez abordés donc dans « Répondre », figure de la réponse et de la responsabilité qui vient de paraître à la fin de 2007 au PUF. Et le premier thème, c'est celui de la question et de la réponse. Alors, pour certains philosophes, la question est plus importante que la réponse. Et pour vous, il n'en est rien. Pour vous, le plus important est la réponse à un appel qui est, dites-vous, plus originaire que la réponse à une question. Toute parole grave, dites-vous, est responsive. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi avez-vous déplacé, d'une certaine façon, le centre de gravité de la question et de la réponse à la réponse et à l'appel?
Alors, c'est ce que je m'efforce de décrire phénoménologiquement dans le premier chapitre de ce livre. Alors, ce n'est pas du tout une méconnaissance ou un refus de l'importance de la structure question-réponse, mais c'est qu'elles ne sont pas situées au même niveau. Prenons l'exemple le plus simple, qui je pense sera clair pour n'importe qui. Imaginez que quelqu'un vous aborde en vous posant telle et telle question sur quelque objet que ce soit. Si cette personne vous aborde pour vous poser des questions, c'est d'une part qu'elle a été appelée, requise par l'objet de ces questions. Elle vous pose des questions sur la politique, si la politique intéresse, etc. etc. Et d'autre part, évidemment que il lui semble que c'est avec vous, ou contre vous, ou pas, en tout cas pas sans vous, qu'on pourra trouver un chemin pour répondre à ces questions, pour mieux y répondre. Donc il y a un appel par le phénomène dont on parle, qui est antérieur au fait qu'on pose des questions, ou qu'on se pose des questions sur lui, et donc l'appel est plus originaire. À condition de bien entendre, évidemment, ce terme a pour beaucoup une consonance avant tout théologique ou théologale, mais quand simplement vous vous retournez dans la rue parce que vous avez vu une très belle personne, ou quand devant un paysage vous dites comme c'est beau, c'est précisément parce que ce qui est apparu, cette personne qui passe, ou ce paysage, quelques exemples comprendra, vous a précisément appelé, en quelque sorte, happé. L'appel, ça peut être simplement l'appel du monde, dont j'ai souvent parlé. Voyez, vous me parliez tout à l'heure d'intimité, que je pensais l'intimité. Alors, ce terme me paraît peut-être un peu restrictif. J'ai écrit la joie spacieuse. Alors, l'intériorité, oui. La pudeur, oui. La discrétion, oui. Mais l'appel peut être tout à fait un appel cosmique, n'est-ce pas? Ce qu'on éprouve devant une montagne, la mer, c'est aussi un appel qu'on peut envisager d'une façon parfaitement profane.
Alors vous distinguez trois types d'appels et trois types de réponses. L'appel de la beauté, qui était le titre de votre second livre. Donc l'appel de la beauté avec comme réponse l'effroi de cette même beauté. L'appel du logos. La réponse, c'est les pensées et les paroles. Et puis, l'appel de Dieu, et la réponse, c'est la foi. Donc, ces trois appels différents et ces trois réponses différentes, comment s'articulent-elles les unes avec les autres?
Oui, d'abord, j'ai fait ces descriptions pour préciser, en quelque sorte, incarner la notion d'appel, qui n'est pas l'appel sans qu'on sache ce à quoi il appelle. Je ne prétends pas faire une liste exhaustive de toutes les dimensions selon lesquelles on puisse être appelé. C'est pour illustrer en quoi le concept est d'une certaine façon transcendantal au sens du Moyen-Âge, c'est-à-dire il parcourt les différents domaines de l'être, transcatégoriel, vous voyez, et qu'il n'y a pas qu'un seul type d'appel. Alors, évidemment, Si je suis, selon vous, secret, je dirais ici ce qu'on appelle avec humour un secret de Polichinelle, en ce qui me concerne en tout cas, qui est pour moi effectivement, ultimement, tout appel est reconduit à un appel divin. C'est une position théologique que je soutiens. Est-ce qu'il y a une puissance appelante par excellence en dernier recours? Alors là, je dirais effectivement que c'est l'appel divin. Pas seulement du Dieu sauveur, mais du Dieu créateur. Mais si on n'accepte pas cette position, on peut penser à un appel de l'être. Mais je ne prétendais pas faire une hiérarchie définitive des appels, mais illustrer en quoi la notion d'appel a une pertinence descriptif, phénoménologique, dans différents domaines. Alors, l'importance de la réponse, de la responsabilité, c'est que, vous voyez, il ne faut pas se représenter ceci de façon naïve. Lorsqu'il s'agit d'un appel, que ce soit celui de Dieu, que ce soit celui de l'être, s'il y en a un, que ce soit celui de la beauté, comme si c'était une communication téléphonique ou radiophonique, ou après avoir entendu un appel, on donnerait sa réponse. C'est une thèse que d'ailleurs avec d'autres philosophes contemporains comme Manuel Levinas ou Jean-Luc Marion, je soutiens que l'appel ne s'entend que dans la réponse. C'est-à-dire que si la réponse est pour moi tout à fait centrale, décisive, c'est que elle n'est pas seconde, secondaire, comme s'il fallait d'abord traiter de l'appel et ensuite de la réponse. Phénoménologiquement, c'est là où il y a réponse seulement, quelle qu'elle soit, fut-elle fuite, dérobade, surdité, que nous pouvons décrire l'appel. Alors, disons-le par un exemple moins aride pour ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas philosophes. C'est une des raisons pour lesquelles je reviens souvent à la question de la beauté. La beauté, je ne peux en parler que là où, d'une manière ou de l'autre, j'ai été saisi par elle. Elle est ce qui, que je le voulisse ou non, et que je m'y attendisse ou pas, a requis mon attention. La beauté, c'est forcément une manifestation, quelle que soit la nature de cette manifestation, qui arrête mon regard, qui fait que je me retourne, qui fait que je me fixe, n'est-ce pas? Bon. Et il n'y a pas un temps premier dans lequel je la vois, la constate, et un temps second dans lequel je me demanderais comment, en quelque sorte, y répondre ou y réagir. C'est dans le même et unique instant que je réponds à la beauté par l'éloge, par la peur, par tout ce que vous voudrez, par la fuite. Il y a des beautés terrifiantes. C'est dans cet instant même que j'ai entendu son appel. Et donc, là, dans mon livre déjà ancien, mais vous disiez, il vient de connaître une troisième édition, L'Effroi du Beau, il y avait justement une critique de l'esthétique. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, on considère que le lieu essentiel pour parler et discuter de la beauté, soit naturelle, artistique, soit semi-artistique, c'est le plaisir esthétique, en tant qu'un jugement de goût, le recueil. Ce qui conduit à la distinction radicale du beau et du sublime, comme elle est faite par Kant, par exemple. C'est ce que l'Effroi du Beau refuse. L'Effroi du Beau dit que quand on sépare sublime et beauté, quelque chose de l'être de la beauté, qui est présent dans la méditation antérieure, a été en quelque sorte à jamais perdu et, je dirais, profané. Pour se réduire à la mesure tout à fait étroite de la subjectivité. Mais donc, phénoménologiquement, d'où puis-je parler de la beauté ? À partir de quoi suis-je dans une position où je puis parler de la beauté ? Pour moi, le seul lieu où on puisse parler de la beauté, c'est l'éloge, qui n'est pas la même chose qu'un jugement de plaisir. De la même façon, sur une question dont on discute beaucoup maintenant, et peut-être trop, car faut-il en discuter de cette manière ? Il y a beaucoup de discussions en philosophie contemporaine sur le don. Le don, la donation. Alors, pour moi, le seul lieu phénoménologique, au sens strict, où on puisse parler du don, c'est la gratitude. C'est le merci. C'est analyser la parole de merci. Car, est-ce que je donne ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je donne ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien avec certitude. C'est le fameux jeu de mots sur gift, n'est-ce pas ? Le don, c'est peut-être un poison, une dette, etc. Et ça, ça peut conduire à toute une aporétique du don, comme faisait par exemple Jacques Derrida ou d'autres. De se dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu un seul don véritable, non économique, qui ne soit pas un échange dans toute l'histoire de l'homme ? Comme Kant se demandait, est-ce qu'il n'y a jamais eu une seule action morale dans toute l'histoire de l'homme ? Mais, ou bien il faut cesser de parler du don, ou bien vous avez le seul lieu sûr pour pouvoir en parler, c'est là où vous, vous avez reçu. Là où vous vous dites merci. Car même, quand bien même, ce merci serait adressé à quelqu'un qui n'avait peut-être pas des intentions absolument pures ou parfaites, il reste ce que vous avez reçu. Et ça, c'est indéniable. Vous voyez ? Donc, parler de la beauté, c'est parler de la louange. Qui peut être une gange poétique, n'est-ce pas, ou musicale, ou picturale. Parler du don, c'est parler du merci. Et non pas chercher à scruter des mystères du don du côté du donateur. Voyez.
Nous allons faire une seconde pause musicale et je voudrais terminer cette séquence par cette invitation de Rilke qui dit, et je vous cite citant Rilke, donc Rilke invite à aimer les questions elles-mêmes comme des pièces closes et des livres qui sont écrits dans une langue tout à fait étrangère. Thank you. Voilà, nous reprenons notre entretien avec Jean-Louis Chrétien et nous étions donc restés, enfin entre guillemets, provisoirement sur cette idée de que l'appel ne s'entend que dans la réponse et que d'une certaine façon, le beau, c'est pas le mot que vous avez employé, mais c'est peut-être comme ça qu'on peut le comprendre, le beau est une forme de réquisition.
Oui, tout à fait.
Quelque chose qui nous réquisitionne et qui nous invite à quelque chose qui suppose une réponse que nous ne connaissons pas. Je voudrais aborder un autre point avec vous, qui est celui de la joute des réponses. Pour vous, toute parole est polémique. Alors, il faut essayer de mieux comprendre ce que polémique veut dire. D'où cette figure centrale dans votre œuvre, qui est celle de Jacob luttant avec l'ange. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pourquoi considérez-vous que toute parole est polémique, toute parole est agonique, dites-vous, en ceci qu'elle lutte pour et avec la vérité, et donc qu'elle en recevrait, comme Jacob avec l'ange, une forme de blessure qui serait essentielle à son épanouissement.
Alors là, c'est une question vraiment tout à fait essentielle à mes yeux, mais il faut distinguer deux plans ou deux niveaux. Le premier, c'est celui que vous indiquiez par cette figure de la lutte de Jacob avec l'ange. C'est celui que j'aborderai d'abord. Alors, c'est une très belle figure. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas vue à voir dans la première chapelle à droite de Saint-Sulpice l'admirable peinture murale de la croix sur Jacob et l'ange, qui est à juste titre très admirée. Mais la première chose rejoint ma thématique de l'excès, excessus. C'est-à-dire qu'au fond, même si ça paraîtrait paradoxal, cela seulement qui mérite d'être dit, c'est cela qu'au départ je n'arrive pas à dire. Cela seulement qui vaut d'être pensé, c'est cela qui, au départ, échappe aux prises de ma pensée. Alors, ça n'est pas du tout, mais pas du tout, un éloge de l'impensable, de l'ineffable en soi. Vous comprendrez que il serait paradoxal qu'un homme qui étant écrit sur la parole dise qu'il est un penseur de l'ineffable. Mais ça signifie que tout ce qui est digne et beau commence par une démesure, commence par ce que j'appelle excès. Je me sens requis par une tâche quelle qu'elle soit qui dépasse mes forces présentes. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'agonique, n'est-ce pas, d'un combat qui est un combat avec ce que je cherche à faire et aussi avec ma propre faiblesse ou défaillance. Et en ce sens-là, d'un penseur aussi différent de moi que Sartre, est-ce qu'il a toujours appliqué cette maxime, j'en sais rien, mais il disait qu'il faut penser contre soi-même. C'est une forme aussi de cet agone, vous voyez. Sinon, on tournerait comme un hamster pour les enfants dans sa cage, n'est-ce pas, qui fait un perpétuel mouvement immobile. Si je ne pense que ce que je sais déjà penser, si je ne dis que ce que je sais déjà dire, si je ne peins que ce que je sais déjà peindre, et si je ne mesure que ce que je sais déjà mesurer, vous voyez que c'est funeste, c'est mortel, c'est répétitif, c'est infernal d'une certaine manière, c'est la roue d'Ixion ou le mythe de Sisyphe, d'où le fait que cette démesure dont je parle, cet excès dont je parle, n'est pas une complaisance en quelque sorte pour les pathétiques, mais les seules tâches qu'on puisse se proposer, sont des tâches au-dessus de ses forces. Vous voyez, sinon, à quoi bon ? Alors ça, c'est un premier agone. C'est celui que peut illustrer la lutte de Jacob avec l'ange. Un grand philosophe, ce que je ne prétends pas du tout être, c'est un homme qui a fait preuve d'endurance, d'endurance à la douleur, dans sa lutte corps à corps avec telle ou telle grande question. Et un grand écrivain, c'est quelqu'un qui pensait à Proust ou pensait à Balzac ou d'autres encore. C'est quelqu'un qui a eu précisément cet agone avec ce qui, au départ, donc toute parole est en quelque sorte parole à l'impossible ou tâche à l'impossible. C'est une première forme. Alors ensuite, dans ce livre, j'étudie aussi le rapport, c'est un second niveau, un second plan, j'étudie le rapport des paroles humaines entre elles. Alors là, il y a aussi la dimension de l'herméneutique, bien développée par Gadamer et bien d'autres, mais qui est d'origine biblique. C'est-à-dire qu'une parole ne se comprend que dans son rapport aussi avec d'autres paroles, avec celles auxquelles elle répond explicitement, avec celles auxquelles elle répond implicitement, avec celle qu'elle biffe, en quelque sorte, ce qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dit, et qu'évidemment, nous sommes dans un champ historique, social, intellectuel, spirituel, où il y a un rapport de toutes les paroles entre elles, d'une certaine manière. Et ce rapport est forcément un rapport agonique. Vous voyez, agonique est moins violent que... C'est comme l'agone, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est la joute, comme les Jeux olympiques des Grecs anciens. Le but n'est pas de tuer l'adversaire, mais de l'emporter sur lui.
Mais il n'y a pas moins de violence.
Ah oui, alors ça, vous savez, il y a cette phrase de Rimbaud, je ne cite pas la phrase littéralement, mais c'est l'idée qu'il dit que le combat spirituel n'est pas moins vif que la bataille d'hommes. Voyez, et ce combat, il est sans fin. Il est partout. Si irénique vouliez-vous être, si pacifique entendiez-vous être dans votre parole, quand vous parlez, autrement que pour dire des choses insignifiantes, pour bavarder, votre parole est une parole qui s'oppose à d'autres, qui répond à d'autres dans la gratitude, dans la transmission, dans la reconnaissance, mais aussi dans l'inverse. L'intéressant, c'est aussi d'étudier un peu les formes que ça prend, comme je l'ai fait dans mon livre avec des arts déterminés, vous voyez.
Oui, donc ça suppose effectivement à la fois donc, le combat, donc ça veut dire l'opposition d'une parole à l'autre et sans doute le surcroît plutôt que l'opposition frontale qui supposerait une réduction. Voilà. Et ça rejoint effectivement ce que vous disiez ici sur la traduction. Quand on se traduit soi-même, et même quand on traduit un texte dans une autre langue, ça ajoute, ce que disait Saint-Augustin, ça ajoute plutôt que ça ne retire. Et donc, toujours sur ce thème de la joute, il y a aussi ce thème de la blessure secrète, comme Jacob, blessé par l'ange, qui est une marque, un signe. Oui. Est-ce que toute parole, dans ce jeu-là, dans ce corps à corps-là, dans ce texte à texte-là, dans ce mot à mot, est, semble-t-il, un texte ou un mot ou une parole blessée, empreinte de cette blessure ?
Bien sûr, on ne saurait dire en aucune manière que toute parole soit blessée. Ce qu'on peut dire, c'est que toute parole portante ou grave est d'une manière ou de l'autre blessée. On pourrait énumérer des dizaines d'exemples, évidemment, dans bien des domaines. Vous vous souvenez de l'extase de saint Thomas d'Aquin à la fin de sa vie, lorsque toute son œuvre, pourtant si immense, magistrale, éblouissante d'articulation intellectuelle, lui apparaît, dit-il, comme de la paille. On pourrait prendre des exemples dans la littérature. Est-ce que c'est vraiment seulement un signe de folie religieuse que Gogol ait brûlé son manuscrit, n'est-ce pas, comme on dit parfois, ou est-ce que c'est cette blessure dont je parle? L'idée de blessure est solidaire du fait qu'il y a eu précisément un affrontement avec plus fort que nous, vous voyez, qui, on pourrait faire de ça une sorte de maxime, n'est-ce pas, qui dois-tu affronter plus fort que toi? Ce qui ne veut pas dire un principe de folie, et qu'on peut inviter des gens en piètre état à gravir l'Himalaya. Mais s'il n'y a pas ce différentiel, si je ne me propose pas une tâche plus haute que moi, alors au fond, autant ne rien faire, n'est-ce pas? Et peut-on imaginer qu'il n'y en aurait pas de blessure. Ce n'est pas une blessure que j'entends dans un sens psychologique. Cette blessure, elle doit être inscrite d'une manière ou de l'autre dans l'œuvre. Quand Caravage peint un autoportrait épouvantable, n'est-ce pas, sert dans ses œuvres et ainsi de suite, ça fait partie d'une blessure qui là aussi n'est pas d'abord psychologique, qui est inscrite dans l'œuvre elle-même. On pourrait dire, cherche, si j'ose risquer cette comparaison, évidemment qu'il peut paraître déplacé, mais après tout, j'ai écrit un chapitre sur le nombril d'après les pères de l'Église. Vous voyez, enfin, nous avons sur notre corps cette marque qui est précisément la marque d'une coupure et d'une séparation du cordon ombilical. Dans une œuvre, il doit y avoir aussi, qu'elle soit picturale, musicale, littéraire, philosophique, religieuse, il doit y avoir la marque aussi, non pas de ce qui la sépare d'un cordon ombilical, mais la marque jacobéenne, si j'ose dire, de là où elle a affronté ce qui était son plus grand adversaire, vous voyez, c'est-à-dire sa tâche.
Mais la blessure qui révèle, enfin, je pense en particulier à cette belle peinture de Van Gogh, enfin, ces deux chaussures qui étaient effectivement blessées au sens qui n'étaient plus tellement en usage et que Heidegger a particulièrement médité. Donc peut-être que la blessure est ce qui nous permet d'accéder à la vérité, enfin, ou à la nature profonde, enfin, du monde ou de la parole ou de Dieu. Enfin.
Oui, si cette blessure est la blessure de ce qui est plus haut que nous. Dans tous les ordres. Il y a aussi des mauvaises blessures. Il y a aussi des blessures qui viennent de l'intérieur, hein, d'un démon intérieur, d'une difficulté. Mais elles peuvent aussi accéder à la dimension du sens. Et à ce moment-là, devenir une blessure dans un autre sens.
Nous faisons donc une pause musicale pour permettre à nos auditeurs de respirer musicalement, comme nous disons. Et nous reprendrons par la suite notre entretien avec Jean-Luc Chrétien. Donc, nous reprenons notre entretien avec Jean-Louis Chrétien. Et je voudrais aborder avec vous les ultimes parties de ces conférences que nous cherchons d'une manière ou d'une autre à suivre, et conférences donc, que vous avez données à l'Institut catholique l'année dernière, sur le thème de l'écoute. Alors, l'écoute, dites-vous, c'est répondre, et répondre, c'est écouter. Alors, que faisons-nous quand nous écoutons? Quelles sont, d'une façon, les qualités d'une bonne écoute? Et là, on est toujours dans cette même question de l'appel et la réponse, d'une façon. Enfin, est-ce que nous écoutons ce que nous savons déjà, ou est-ce que nous écoutons ce qui nous apprend quelque chose, ou ce qui nous ouvre à des perspectives inédites.
Alors, d'abord, le simple fait d'écouter est déjà en effet une réponse et une responsabilité. Ce qu'on peut très bien être très simplement marqué à contrario, en disant que si vous entendez quelque chose d'absolument infâme, une proposition infâme ou des discours ignobles, vous partez, ou vous faites taire, mais vous n'écoutez pas. Alors c'est une simple preuve à contrario qui manifeste que il ne faut pas prendre un modèle machinique ou machinal comme on le fait trop de notre temps. Écouter n'est pas décoder un message, c'est pas émetteur et récepteur, car celui qui parle et celui qui écoute se tiennent tous les deux dans et sous la parole, et l'écoutant n'est pas un moindre être de parole que celui qui parle. Alors maintenant, il n'y a pas de règles ou d'art de l'écoute qui serait unilatéral, car évidemment c'est tout à fait existentiel et spirituel. C'est-à-dire qu'à parole différente, écoute différente. L'écoute que nous avons dans une conversation comme celle que nous menons maintenant n'est pas du tout la même que l'écoute qu'on aurait vis-à-vis de quelqu'un qui vous appellerait à l'aide, où vous confierez ses tourments et ses difficultés. Dégager des règles générales n'aurait pas ici beaucoup de sens. Il y a une appropriation à la situation. Mais ce qui est important, c'est que, vous voyez, parler à quelqu'un, c'est encore écouter. Si vous permettez cette anecdote prise de l'expérience depuis plusieurs dizaines d'années de l'enseignement, c'est que même quand vous faites un cours, comme on dit, magistral, où les étudiants ne prennent pas la parole, vous savez très bien si ça les ennuie profondément, si ça les intéresse, s'ils sont d'accord ou pas d'accord, d'après précisément la manière dont ils écoutent, la nudité de leur visage, qui est déjà une réponse. Et donc, vous écoutez aussi ce que leur visage montre, n'est-ce pas, alors que vous parlez. Comme eux, ils manifestent aussi la réponse, l'intérêt ou l'ennui ou tout ce qui est possible. Alors, les deux s'incluent l'un l'autre, ce que je n'ai pas du tout démontré. Le premier, c'est largement présent chez Heidegger et dans la phénoménologie de la parole.
Mais vous montrez bien, enfin, vous faites une petite parenthèse, enfin, dans ce livre, sur le lien entre le professeur et l'élève, qui, dites-vous, n'est pas un dialogue, donc qui est vraiment quelque chose qui est demandé, donc un savoir précis qui est demandé. Donc là, on est sur autre chose, qui est les qualités d'une écoute interpersonnelle, d'une écoute, oui. D'une écoute qui est au-delà du savoir qui est demandé, de la notation. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'idée d'avoir comment écouter, enfin, quelles sont les qualités de l'écoute, qu'est-ce que vous diriez comme effectivement ces qualités requises et qui permettent à quelqu'un qui écoute d'être véritablement en quoi ? En sympathie, en accord, à l'unisson ?
Ben justement, la question, c'est de ne pas tout à fait être à l'unisson. La question, j'ai abordé dans le chapitre qui s'appelle « L'inouï » de mon ouvrage « L'Arche de la parole », c'est que d'une certaine façon, il ne faut pas... croire trop bien savoir écouter. Il faut une disponibilité, justement, à l'inouï, à se laisser surprendre. Oui, je dis se laisser lire, mais c'est aussi se laisser surprendre. Et à ne pas, en quelque sorte, rendre compte, se rendre compte immédiatement de ce qui nous est dit et de comment il faut réagir. Vous voyez, on écoute aussi les silences. Il faut la fameuse troisième oreille des psychanalystes dans l'écoute. C'est pourquoi on ne peut pas imaginer une sorte de technique de l'écoute. On peut en dire beaucoup de choses précises, mais plutôt dans des descriptions de telle ou telle situation.
Là, pour passer, toujours pour suivre vos conférences, comment passons-nous de cette réponse ? Donc, on parle d'une réponse, voilà. Comment passons-nous de la réponse à la responsabilité ? Vous montrez bien ce passage du répondre à au répondre de. Voilà. Et ce passage d'une responsabilité qui peut être restreinte à une responsabilité générale. Donc comment, selon vous, dans la parole, donc dans la parole qui se dit, la parole qui s'écoute, comment dans l'écoute, nous passons de la réponse à la responsabilité.
Alors, le lien de répondre à et répondre de au sens de la responsabilité, c'est un lien qui, évidemment, n'est pas forgé ou inventé par moi, parce qu'il est dans le langage lui-même. Tout le vocabulaire allemand, anglais, français, latin de la réponse, de l'acte de répondre, repose sur une responsabilité. Et c'est parfois des mots qui ont un sens directement juridique départ. Alors, le chapitre que j'ai consacré à la responsabilité, il n'est pas possible ici d'en reconstituer le parcours, il concerne vraiment le sens moral de la responsabilité. Disons que c'est une réflexion quelque peu agonique aussi contre une pensée qui a bien des représentants actuels et tout à fait éminents. Sartre le fut, Lévinas a pris la suite, de ce que j'appelle l'omni-responsabilité, c'est-à-dire que l'idée que je suis responsable de tout et de tous. Idée qui remonte à Dostoïevski, frère Karamazov, enfin en tout cas dans cette formulation, qui a évidemment sa grande profondeur, noblesse et dignité, mais qui me semble aussi présenter un certain nombre de grands périls, vous voyez. Est-ce qu'en me disant que je suis responsable de tout et de tous, en étant comme écrasé par cette omni-responsabilité, ça n'est pas aussi un lieu pour oublier, fuir, minimiser mes responsabilités tout à fait finies, tout à fait définies, mais extrêmement concrètes et réelles. J'ai peur quand on prend ça comme thème d'une philosophie morale, qui est, voyez, une sorte d'hyperbole qui grise l'imagination, mais qui risque aussi de dissoudre en quelque sorte nos devoirs précis, nos fautes précises, dans une idée de responsabilité universelle. Idée qui, au demeurant, n'a de sens que théologique, que christique. Nous pouvons être le répondant du premier venu. Et si quelqu'un se trouve mal dans la rue devant moi, eh bien, si je suis là, je dois l'aider. Bon, le premier venu. Mais nous-mêmes coupables, fini, nous n'avons pas les ressources pour répondre de tout et de tous. Alors, ou bien il n'y a aucun répondant qui soit répondant de toute l'humanité, thèse qu'on peut parfaitement soutenir, ou bien s'il y a un tel répondant, il ne peut être que Dieu. Et c'est pourquoi mon livre se termine par l'évocation des pensées.
Parce que vous arrivez effectivement à la fin, donc dans ce dernier chapitre, qui est un thème aussi, qui est transversal dans votre œuvre, à la figure du Christ. Et vous présentez le Christ comme le répondant par excellence. Donc Jésus, comme le garant d'une alliance meilleure, dit l'épôtre...
L'épître aux Hébreux.
L'épître aux Hébreux, voilà. Oui. En quoi est-ce que cette figure christique, en quoi est-ce que le Christ, dans votre cheminement, dans ce cheminement auquel vous nous avez invités dans ces conférences, en quoi est-ce que cette figure ultime, ce répondant suprême, permet de mieux faire épanouir la responsabilité que nous avons vue se développer progressivement dans la parole pour arriver à la responsabilité et à la responsabilité suprême qui est celle du Christ comme répondant?
Alors là, ces deux chapitres font, c'est d'une certaine manière un diptyque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon dernier chapitre n'est pas un traité de christologie. J'étudie des pensées qui sont d'ailleurs des pensées tout à fait philosophiques, comme celle de Kant, par exemple, ou d'autres encore, pour montrer comment cette idée du Christ comme le répondant de toute humanité coupable a pu être pensée selon différentes logiques au cours de l'histoire. Alors, c'est une pensée auquel on adhère en tant que croyant ou non, mais qui a sa parfaite cohérence et qui repose évidemment sur le caractère divin du Christ. Alors, la couche nouvelle qui est atteinte là, c'est la possibilité de la substitution. C'est la possibilité précisément qui est tout à fait immorale, au sens que la morale ne peut pas l'accepter ni l'admettre, que quelqu'un paye la dette d'un autre, n'est-ce pas? Que nous puissions nous substituer les uns aux autres, en Christo, comme on dirait en grec. Alors là, c'est une possibilité qui n'a rien de philosophique, même si on peut en montrer la cohérence et la puissance, on passe là dans l'ordre théologique. Mais c'est le seul sens qu'on puisse reconnaître comme légitime ou comme valide, à l'idée de substitution. Car autrement, L'idée qu'un autre paye mes dettes à ma place est évidemment, il est tout à fait scandaleux que je puisse l'accepter. Vous voyez, donc là, bizarrement, puisqu'on m'a parfois reproché de mélanger philosophie et théologie, c'est un point où j'insiste sur le caractère tout à fait net, précis et clair de leur ligne de séparation.
Il y a une polémique, entre guillemets, enfin, sur la dérive, entre guillemets, de la phénoménologie du côté de la théologie, enfin, dans les années 90. Enfin, voilà, donc c'est ce à quoi vous faites, si j'ai bien compris, allusion. Donc, en quoi est-ce que cette figure du répondant suprême est, à votre avis, un élément essentiel à votre compréhension ou à ce passage de l'appel à la réponse, de la réponse à la responsabilité?
Le titre du livre étant « Répondre », la question est de savoir si la réponse est en quelque sorte multiple, éclatée entre toutes sortes de domaines de l'existence et en toutes sortes de répondants, ou est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer une figure d'un répondant ultime et premier, car là, il fait répondre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, et là, c'est l'élargissement justement à une figure qu'on peut contempler, quel que soit le mode de cette contemplation, qui en quelque sorte comme la proue de la nef humanité, si j'ose dire. Dans cette figure de proue, c'est à la fois tout le péché de l'homme, toute l'horreur du péché humain, tout au long de l'histoire, et aussi la possibilité d'une rédemption qui surgit. Donc, il me semblait qu'on ne saurait aller au-delà dans une réflexion sur la réponse, quelle que soit la réponse que les auditeurs ou lecteurs eux-mêmes donnent à cette figure que je n'ai fait qu'esquisser.
Jean-Luc Chrétien, merci beaucoup donc pour cet entretien. Et je ne peux que renvoyer nos auditeurs aux différents livres que vous avez fait paraître depuis plus de 20 ans. Je conseille en particulier, parce que j'ai trouvé beaucoup de nourriture spirituelle, Saint-Augustin et des actes de parole, L'effroi du beau, donc, qui vient de reparaître pour sa troisième édition. Répondre, donc, figure de la réponse et de la responsabilité, qui est votre dernier ouvrage, plus tous les livres que nous avons cités. Jean-Luc Chrétien, merci.
Merci.